France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Histoire d'une faillite, l'Argentine. Nous avons trois problèmes, répétaient les manifestants de l'Argentine en chute libre de 2001. Nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de retraite et nous ne sommes pas encore morts. L'Argentine, d'habitude, s'inquiète de savoir si le monde la trouve belle. Cette année-là, le monde la regardait. Stupéfait, une puissance moyenne de 40 millions d'habitants peut donc faire faillite. Pardon, il faut dire défaut. Mais le résultat est le même, le décrochage des classes moyennes qui faisaient l'orgueil du pays et l'effondrement des pauvres. 10 ans plus tard, la croissance frise les 10%, la présidente Cristina Kirchner est réélue au premier tour et, se considérant dans son miroir, dit à la terre entière qui s'interroge sur cette nouvelle jeunesse, l'Argentine est un pays sérieux. Il n'y a pas de leçon en histoire, mais cette histoire-ci mérite une révision. Notre invité, Pierre Salama, professeur d'économie à Paris 13, bonjour.
Bonjour.
Grand voyageur en Argentine, au Brésil, au Mexique. Le Brésil dont le général de Gaulle disait que c'était un pays sérieux ?
Non, pas sérieux justement.
Et pourquoi ?
Parce que je pense que les Brésiliens étaient arrivés en retard à son rendez-vous et... Il en avait déduit que ce n'était pas la peine de continuer à investir.
L'Argentine est un pays grand par la taille, un peu moins que le Brésil, moyen par la population, mais où on peut investir. Quelles sont les productions dans les années 80 de l'Argentine ?
D'abord, l'Argentine était la puissance de l'Amérique latine. Elle l'est d'ailleurs encore à présent, mais c'était la plus grande puissance d'Amérique latine avec le produit par tête le plus élevé. Et une production industrielle assez substantielle. Et ce n'était plus seulement le pays agricole où on exportait de la viande et du blé. Donc on continuait à en exporter, certes, à cette époque. Mais c'était un pays donc considéré comme la plus grande puissance d'Amérique latine, mais qui avait été frappé de plein fouet, si je puis dire, par la dictature de 76 et ensuite par l'hyperinflation des années 80.
Ah, vous avez prononcé le mot terrible, inflation, qui préoccupe beaucoup les économistes et les politiques à la fin des années 80. Par exemple, Menem, le nouveau président de l'Argentine, qui succède en 1989 au radical Alfonsín, extrait de 7 sur 7.
Le 8 juillet, Carlos Menem recevait l'écharpe présidentielle des mains de Raoul Alfonsín. C'était la première fois depuis la fin de la dictature qu'un civil remettait le pouvoir à un autre civil. Ce pays qui se vantait entre les deux guerres d'être la 8e puissance mondiale est aujourd'hui confronté à la plus grave crise économique de son histoire.
L'Argentine se croyait riche, elle ne se reconnaît plus. Ces gens ne peuvent plus payer le crédit de leur téléviseur et font la queue pour demander des délais à la banque. Les traites ont augmenté de 400% en un mois. Les ménagères font provision de pain, car demain, il vaudra beaucoup plus cher. L'inflation dépassera 200% en juillet, malgré les mesures d'urgence prises par le nouveau président. La police monte la garde devant les supermarchés pillés il y a 2 mois par des milliers de pauvres affamés et surveille les bidonvilles tout proches. Pour survivre, les habitants se regroupent autour de maigres soupes populaires. Un jour sur deux, les produits de base manquent. Et les femmes manifestent alors devant la mairie la plus proche pour réclamer du pain.
Le souci de l'inflation qui nécessite tout de suite pour le nouveau président Menem, je répète son nom parce qu'il est flamboyant, des mesures rapides.
Oui, Menem est arrivé quelques mois plus tôt que prévu. Il y a eu ce qu'on appelait à cette époque un coup d'état monétaire. Et le taux d'inflation mensuel était avoisiné les 200%. C'était une véritable catastrophe. Et donc Alfonsín ne pouvait plus continuer à gouverner et il a cédé la place quelques mois auparavant, avant son terme, au président Menem, fraîchement élu. Alors ça, c'est l'histoire de l'inflation, c'est une histoire d'abord qui n'est pas seulement argentine. Elle est brésilienne, elle est bolivienne, elle est bref, en gros, latino-américaine. On a des taux d'inflation à cette époque, dans les années 80, de l'ordre de 3000%, 4000% par an, ce qui est absolument gigantesque. Et la particularité, c'est que ces taux d'inflation, cette inflation dure pendant 10 ans, et non pas à l'allemande pendant quelques mois. Ça veut dire quelque chose d'horrible. Ça veut dire que les plus pauvres sont encore plus pauvres. Et les plus riches, les 1% ou 2% plus riches, arrivent à tirer profit de cette situation. Mais dans l'ensemble, il y a un appauvrissement général de la population. C'est possible à cette époque, il n'est plus possible de faire confiance aux lois du marché, si je puis dire. On ne sait pas si on doit acheter ou vendre. Et la seule manière peut-être de s'en sortir, c'est de se référer au dollar. C'est-à-dire, en fait, on commence à avoir une dollarisation. Non pas, on ne paye pas nécessairement avec des dollars, mais on a une dollarisation.
Alors, en 91, Menem et son ministre des Finances décident d'une convertibilité assez rigide du peso, la nouvelle monnaie, et du dollar. Un dollar, un peso. Et ça, on n'en bouge pas, on ne transige pas. Ancrage à une monnaie forte.
On va même beaucoup plus loin. Auparavant, c'était donc une dollarisation passive, c'était une référence. Là, ça devient une dollarisation active, c'est-à-dire on dit un peso est égal à un dollar. Point à la ligne. Et vous pouviez très très bien, dans une banque, tirer des dollars ou des pesos. Vous pouviez très très bien aller au restaurant et recevoir la monnaie en dollars ou en pesos. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour que ça marche, il faut que le taux de change soit crédible. Pour que le taux de change soit crédible, eh bien, Menem a pensé qu'il fallait faire un Big Bang. Un Big Bang, c'est-à-dire en fait libéraliser soudainement l'ensemble des marchés.
Il appelle ça la modernisation. Alors ça passe par des privatisations.
Ça a passé par des privatisations massives, une augmentation aussi considérable de la corruption dont a pu bénéficier la famille Menem.
Enfin, une augmentation aussi considérable des investissements français.
Un peu plus tard, quand même, il y a eu un peu de prudence au départ. Il a fallu voir si les choses se stabilisaient. Au début, on a commencé tout simplement par l'achat des bons, c'est-à-dire des obligations qui rapportaient un taux d'intérêt assez substantiel et qui surtout, qu'on pouvait faire revenir l'argent quand on voulait. Donc, il y avait la liberté de mouvement des capitaux. C'est ce qu'on appelle la convertibilité qui est interne et externe. Donc, c'était une situation ultra-libérale qui a été imposée et qui a marché au départ.
Mais la modernisation passe aussi par la fin du distributionnisme. C'est ainsi que Menem considérait une politique souvent traditionnelle en Argentine de distribution des aides sociales.
Oui, c'est tout à fait exact. Ça date du... C'était un péroniste, ceci dit. Mais Perón avait institué un modèle distributif qui a mis à bas...
Le grand chef d'État en Argentine qui s'appuyait au moins en partie sur les classes populaires.
Absolument, et même qu'il y a eu des mouvements, ce qu'on appelle des sans-chemises, si je puis dire, pour l'appuyer, le faire sortir de prison. Et ce qui s'est passé avec Menem, c'était qu'il s'est fait élire, comme on dit, sur sa gauche, et il a gouverné sur sa droite, mais
donc
pas sa droite.
Avec l'appui des grands groupes industriels, commerciaux, agricoles.
Immédiatement, il s'est associé avec tous les ennemis, entre guillemets, de Perón du temps jadis. Et il a pratiqué une politique antisociale immédiatement sous prétexte de flexibilité du marché du travail.
Alors pourquoi cette modernisation, parce que c'est le nom de cette politique antisociale officielle, ne marche-t-elle pas au bout d'un moment?
Non, elle a marché, entre guillemets, à un coût social extrêmement élevé. Je crois que ça, c'est très important de le dire. Une incapacité d'abaisser fortement à la pauvreté, alors même que les taux de croissance, disait-il, étaient des taux de croissance à l'asiatique. C'est-à-dire des taux de croissance extrêmement élevés pendant plusieurs années, mais aussi avec une très grande volatilité. Un jour, vous aviez 8% de croissance, le lendemain, vous aviez moins 5%.
L'effet sur les classes populaires à terme?
L'effet sur les classes populaires, c'est un peu difficile à dire, parce que comme il était péroniste, il a reçu malgré tout l'appui que n'avait pas reçu Alfonsine des syndicats. Et à une période où la précarisation du travail s'est développée et aussi l'influence des syndicats s'est amoindrie.
Mais tout de même, en 99, 10 ans après sa prise de pouvoir, pour les plus pauvres, la situation redevient tragique.
Oui, ça a même commencé un petit peu plus tôt, ça a commencé en 97-98, lorsque ce système dit de convertibilité a commencé à ne plus fonctionner. Parce que ce système, le propre de ce système, c'est que l'on ne pouvait donner des crédits qu'en fonction des dollars qui rentraient. Quand les dollars ont commencé à ne plus rentrer parce qu'on a pensé que le système n'était plus fiable, eh bien, à ce moment-là, la crise a commencé. C'est-à-dire que l'éclatement de la crise de fin 2001 a commencé en 97-98.
Et puis le poids de la dette qui pesait très lourd depuis l'époque des généraux ne faisait aussi que s'aggraver. Je vous propose de décrire les choses en 99-2000 en jouant avec le lexique de la protestation que le monde a très vite appris à connaître et dont il se souvient. Conjonction de chômeurs et de gens encore employés mais de moins en moins payés, ça fait piqueteros.
Le principe du piqueter, c'est de bloquer une rue, puisque effectivement, les gens n'ont plus de travail, donc ils ne peuvent pas faire grève pour faire pression. Donc ils bloquent une route pour pouvoir faire pression sur le gouvernement pour obtenir des choses. Et là, l'idée, c'est même pas de demander quelque chose au gouvernement. De toute façon, les gens n'attendent pas grand-chose du gouvernement à part la survie minimum. Et en l'occurrence, il s'agit juste d'aller à un abattoir qui est très proche pour demander de la viande, pour rentrer chez soi avec un bout de viande à manger. On est déjà venu souvent, on a passé la nuit ici, on est même resté 4 ou 5 jours. L'abattoir nous donnait de la viande pour préparer une marmite commune. Mais aujourd'hui, c'est différent parce qu'on veut en rapporter à la maison. Parce que jusqu'à l'année dernière, quand on venait, on pouvait encore en acheter de la viande. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. Parce que si on achète de la viande, on n'achète rien d'autre. La viande coûte plus $1 le kilo, et même $1.50 des fois. Ça fait 5 ou 6 pesos. Même la mauvaise viande hachée coûte 3 pesos. Nous, on gagne 150 pesos du plan social et c'est tout. Ça nous suffit à manger 3 jours ou une semaine. La viande, on la goûte à peine une fois par mois. Alors aujourd'hui, il va bien falloir qu'ils nous donnent quelque chose, sinon on reste là.
Les piqueteros qui bloquent les voies de circulation, les cartonieros.
Oui, c'est un peu différent. C'est un peu différent, mais c'est la misère.
Alors, qu'est-ce qu'ils font, les cartonieros ?
Le point commun, c'est la misère.
Les cartonieros, ce sont des...
C'est le recyclage. C'est le recyclage au début sauvage, et puis après, de plus en plus organisé. C'est du Bertolt Brecht, c'est l'opéra de Katsu. C'est-à-dire, c'est l'organisation de la ville pour pouvoir tirer au maximum des poubelles, si je puis dire, en les recyclant. Et c'est la misère qui cherche à survivre, car quand on est miséreux, quand on est misérable ou misérabilisé en Argentine, on n'a pas d'indemnité de chômage, on n'a pas toutes ces indemnités qui permettent tout de même de survivre. Donc, il y a eu une unique voie, c'est de procéder par des petits métiers informels au départ et de plus en plus organisés par la suite.
Le pays de la convertibilité devient le pays du recyclage.
Oui, oui, oui. Également aussi de l'argent pour ceux qui avaient le plus d'argent.
Les cacerolazos.
Ah, ça, c'est autre chose. Ça. C'est venu plus tard. Hein. C'est ceux qui ont protesté avec des... C'était plutôt avec des casseroles, etc. C'était lié un peu à un vague souvenir avec ce qui s'était passé au Chili pour faire tomber Allende. Et même si ça n'avait pas la même tonalité, le même sens politique, c'était on se présentait devant l'Assemblée et on faisait beaucoup de bruit avec cela.
Ça veut dire que des classes populaires, on est passé à une protestation des classes moyennes, peu à
Absolument.
Peu.
Absolument. Il y a une bipolarisation qui s'est effectuée dans la distribution des revenus du temps de Menem. 5 à 6% de la population s'en sort très bien et le reste s'écroule.
Les saqueos maintenant.
Les mises à sac visent avant tout les boucheries, les épiceries, les grandes surfaces. Et les policiers ont bien du mal à empêcher ces pilleurs improvisés de repartir, qui avec une cuisse de bœuf, qui avec un morceau de mouton. Car ces émeutiers de la faim sont les Argentins les plus pauvres. Chômeurs, saisonniers ou retraités totalement démunis depuis que l'État ne verse ni salaire ni pension.
Le gouvernement paie les mesures qu'il a prises. Le ministre de l'économie devrait regarder un peu comment les gens souffrent.
Dans tout le pays, les manifestations succèdent aux manifestations. Et forcément, lorsqu'elles dégénèrent, les institutions et les banques sont les premières visées. Les Argentins n'ont plus le droit de tirer de l'argent de leur propre compte. Une mesure destinée à combattre une éventuelle fuite des capitaux.
La situation est sous contrôle. Et je rends hommage au caractère pacifique des Argentins.
Pacifique peut-être, vitupérant sûrement. Les quolibets pleuvent sur le président à sa sortie. Mais il voulait dédramatiser pour convaincre le Fonds monétaire international de verser l'aide promise, 1,3 milliard de dollars bloqués depuis août dernier. Le FMI veut obliger le ministre argentin de l'économie à réduire les dépenses prévues en 2002. Le Parlement argentin refuse de voter un budget de rigueur et le FMI s'obstine, pas d'argent pour l'Argentine.
Alors nous sommes maintenant en décembre 2001, c'était le journal de France 2, le président, maintenant Menem a été remplacé par un radical de la Rua, dit que la protestation est pacifique, je ne sais pas si elle est pacifique vraiment, en tout cas le lexique de la protestation continue d'être inventif, le gel des avoirs bancaires, apprenez-nous un nouveau mot, Pierre Salama, s'appelle...
Le corralito.
C'est ce qui veut dire.
Le corralito, ça signifie tout simplement que les gens peuvent attirer plus de 250 pesos par semaine. C'est-à-dire, c'est tout simplement une restriction de la libre circulation de ces avoirs pour les gens. Le corralito vient de corral, c'est là où on mettait les vaches avant de les tuer. Les vaches en question, ce sont les Argentins, et sentant ceci, effectivement, les Argentins vont commencer à être un peu plus durs, à avoir de moins en moins confiance.
Je ne vais pas vous demander la traduction en grec de corralito.
Mais c'est quelque chose qui, je pense, se passera très bientôt en Grèce, malheureusement.
Alors, le FMI est en Argentine, c'est-à-dire que la politique de privatisation et de libéralisation s'était faite sous la caution du FMI dans les années 90. Et maintenant, au FMI, on demande des injections pour permettre de payer la dette.
Disons plus brutalement les choses. Le Fonds monétaire international considérait, dans les années 90, que l'Argentine était le meilleur élève du Fonds monétaire international. C'est-à-dire le féliciter. Et quand les dollars n'ont cessé de venir à cause des difficultés, notamment du côté de la balance commerciale. Quand ces dollars donc et que c'est accumulé la dette, il s'est passé un scénario à la grecque, si je puis dire. Les taux d'intérêt ont augmenté et il devenait de plus en plus difficile de payer, d'assurer le service de la dette, d'où l'exigence de politique d'austérité, d'où l'aggravation de la crise. La crise de 2001 commence en 97-98. Et je crois que c'est ça qui explique cette montée subite de la pauvreté, cette recherche de liquidité, parce qu'on n'avait plus confiance dans la monnaie.
Mais là, en décembre 2011, le FMI menace de bloquer les fonds.
Absolument.
Qu'il avait promis de libérer.
Absolument, oui. C'est une politique que je crois assez criminelle. Et je crois très sincèrement que le Fonds monétaire international l'a payé extrêmement cher au niveau de sa réputation.
Attendez, vous parlez de crime économique, vous, Pierre Salama ?
Je pense qu'on peut utiliser cette expression. Quand vous voyez le nombre de personnes qui ont décédé à cause de ces crises, oui, je pense que les économistes peuvent être des criminels. Oui, je le crois.
Et encore, n'a-t-on pas vu la police tirer sur la foule, ce qui va se faire dans peu de temps. Nous sommes le 19 décembre 2001. Il est 22h40 à la télévision argentine.
Habla al país el presidente de los argentinos, Dr. Fernando de la Rúa.
Compatriotes.
Mes compatriotes.
Culmina un día difícil.
Nous vivons un jour difficile. Le pays traverse des violences qui mettent en péril les personnes et créent un état de commotion. Je déclare l'état de siège sur tout le territoire national afin de rétablir la loi et l'ordre dans l'ensemble du pays. Comme je l'ai dit à de multiples reprises, La situation requiert le plus grand consensus si nous voulons parvenir à une solution.
Les balles, qui sont d'abord des balles de plomb, répondent à la population. Nous sommes dans la nuit du 19 au 20 décembre, qui répond « État de siège, mon cul ». Je cite « Il y a des manifestations de plus en plus violentes un peu partout dans le pays et surtout place de Mai ». À Buenos Aires, la police charge, gaz lacrymogène, balles de plomb, et 39 morts sont comptés ce jour-là. Le 21 décembre, c'est-à-dire le surlendemain de l'allocution qu'il vient de faire, la Rúa est exfiltré du palais présidentiel, la Casa Rosada, en hélicoptère. Il abandonne la partie.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'Argentine en faillite en 2001 avec Pierre Salama. Ces jours tragiques de décembre 2001 ressuscitent Place de Mai, le vieux succès, souvenir de l'époque héroïque du Chili, du groupe Quilla Payún. En une clameur, mille voix de combat se soulèveront. Ils diront « Chanson de liberté, décidée, la patrie vaincra ». Et maintenant, le peuple se soulève avec des voix de géants criant « En avant ». Il n'y avait quand même pas, c'est pas une révolte qui obéit au canon marxiste que
prolétaires. Ce n'est pas une révolution, c'est une révolte.
Et c'est une crise totale.
Comment ?
C'est une crise totale.
Ah, c'est une crise, je dis pour 95 à 97% de la population, c'est une crise très forte. Et en plus, elle était déjà annoncée par des élections précédentes à Buenos Aires. Ce premier parti, c'était le parti... Celui qui a obtenu le plus de voix, c'est celui qui ne se désignait pas comme parti, c'est les votes nuls et blancs. C'est-à-dire une défiance vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des politiques qui ont été menées, aussi bien sûr, des péronistes que des radicaux qui avaient suivi la même politique plus ou moins que celle des péronistes.
Vous êtes en mission à cette époque-là, en 2002, dans les mois qui suivent, en Argentine, Pierre Salama,
oui,
pour la Fédération internationale des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous voyez ?
Or, je vais chaque année en Argentine et en l'espace de quelques mois, j'ai vu la misère monter de façon absolument faramineuse. Des gens qui avaient, par exemple, de beaux costumes allaient fouiller dans les poubelles pour chercher à manger. Des gens qui avaient des appartements, ne pas pouvoir payer leur électricité et vivant sans électricité. Et nombre d'entre eux devant aller dans des petits baraquements de bois. Donc j'ai vu la misère exploser. Il y a eu 56% de pauvres, selon les chiffres officiels, en 2002-2003. La crise a été une crise très profonde. Mois à mois, sur une année, elle a été de moins 16%.
Mais avec une forte inventivité, puisque la convertibilité du peso et du dollar a donné ces résultats catastrophiques, on crée des monnaies de rechange,
oui,
au-delà du troc.
Il y a eu deux formes en fait de solidarité, parce que je pense que c'est ainsi qu'on peut exprimer cela. Le troc au début était une forme de solidarité. Quand on n'a pas d'argent, on s'entraide et on fait des échanges avec des bons. De même, les assemblées populaires qui sont nées à cette époque ont recherché l'appui des piqueteros. Alors, les assemblées populaires, c'est plutôt couche moyenne, piqueteros, c'était plutôt ouvrier. Donc il y a eu une sorte de fusion qui peut s'expliquer que par cette solidarité, qui peut s'expliquer seulement, à mon avis, par d'un côté la défiance vis-à-vis des politiques à ce moment-là, c'est que se vayan todos, et de l'autre monnaie, de l'autre côté, que se vayan todos, je m'excuse, et de l'autre côté, cette recherche de survie. Par solidarité.
Un peu partout, des bus bricolés, par exemple, pour assurer les services de transport en commun qui ne fonctionnent plus.
Absolument. Il y a eu aussi des usines qui mouraient, qui étaient reprises par les travailleurs.
Alors justement, ces coopératives pilotes qui servent d'exemple et que les journalistes étrangers sont nombreux à visiter. Ici, Gwenaël Lenoir de France 3 en 2002.
Un symbole et pour beaucoup d'Argentins, un modèle. Chacun gagne le même salaire et de quoi nourrir sa famille. Ici, on porte des t-shirts à l'effigie de Che Guevara. Et on fabrique, entre autres, les couvercles d'aluminium qui servent au fameux cancer de casserole.
Nous ne sommes pas seulement des travailleurs qui récupérons des entreprises pour avoir juste nos postes de travail. Nous voulons changer le pouvoir en Argentine.
L'exemple a été suivi dans tout le pays. 70 entreprises sont maintenant dirigées par leurs ouvriers. Au moins 10 000 emplois ont été sauvés. Ainsi, cette fabrique d'arômes alimentaires. Le personnel s'est emparé des locaux en juin. La justice a exproprié le bâtiment et confié la garde des outils aux ouvriers en septembre. Ils ont 2 ans pour racheter l'entreprise.
Ici, on gagne tous la même chose. Ce n'est pas versé sous forme de salaire, mais sous forme de frais. Ça équivaut à 700 pesos mensuels.
700 pesos, c'est juste assez pour manger, mais c'est 4 fois le montant des indemnités d'un chômeur. Les coopératives se sont constituées cet été en réseau qui s'est donné un nom, le MNER, Mouvement National des Entreprises Récupérées.
Le rebond va avoir lieu, pas nécessairement dans la forme qu'imaginent les coopérateurs. Qu'est-ce qui reste de cette inventivité sociale ?
D'abord, l'association entre les assemblées et les piqueteros s'est très rapidement brisée. Par contre, ce qui a résisté, ce sont effectivement quelques coopératives. Il y a le fameux hôtel à Buenos Aires, qui est trop connu peut-être comme exemple, mais il y a aussi de grandes entreprises qui continuent à fonctionner sous forme coopérative.
Mais tout de même, du chaos avec les assemblées de quartier, les assemblées de voisins, les coopératives, très bien. La résultante, c'est, contrairement à ce qu'on imaginait, une concentration plus forte du pouvoir politique. C'est par la concentration du pouvoir politique sous l'égide du nouveau président, 2003, Kirchner, que le levier va fonctionner.
Oui, je ne suis pas certain qu'on puisse dire que ça a fonctionné à cause de cela, mais c'est vrai, comme c'est un péroniste, et les péronistes, ce sont des bonapartistes, il y a donc une concentration en général du pouvoir politique et économique. Mais je crois très très sincèrement que ce qui a donné la légitimité très très forte à Kirchner au départ, c'est tout simplement la reconnaissance qu'il y avait eu une dictature et des crimes de dictature. Les dictateurs étaient des criminels, devaient être jugés. Je crois que cela, ça a été très très important au départ. Et ensuite, il a été supporté par tout simplement la fameuse dévaluation qu'il y a eu, sauvage, mais qui a protégé l'industrie, a permis à celle-ci de se récupérer, de donner des emplois et de donner des salaires, d'offrir des salaires aux travailleurs, d'une part. Et d'autre part, la contrainte externe a quasiment disparu du fait du boom du soja.
Alors attendez, la dévaluation sauvage, c'est-à-dire que sur le plan international, Kirchner dit « je reprends mes billes ». Non, comment ça s'adresse-t-il au FMI et au monde ?
Ça s'est passé un petit peu plus tard, mais en fait, d'abord, il y a eu l'explosion, c'est le défaut, en 2001.
La monnaie passe défaut.
Au lieu de 1-1, ça passe 4-1. Donc, ça protège l'industrie, c'est une dévaluation qui protège l'industrie. Et ce n'est que plus tard, le gouvernement va décider un réchelonnement. C'est-à-dire c'est lui qui va le décider. Il va payer les institutions internationales, à peu près la moitié de la dette. Et le reste, eh bien, va proposer des bons et obliger les créanciers à prendre ces bons. Ces bons avec, un, une décote très importante, et deux, une restructuration dans le temps, un rééchelonnement dans le temps. Ceci pour alléger le service de la dette.
Parce que j'ai la dette internationale, je fais ce que je veux pour la traiter, même si je suis sérieux, dit Kirchner, mais j'ai aussi à protéger la dette des plus pauvres et à intervenir à l'intérieur, là, par des programmes d'aide sociale ?
Alors, c'était un petit peu plus original, si je puis dire. C'est arrivé plus tard, l'aide sociale. C'est tous ceux qui étaient endettés, les Argentins qui étaient endettés en dollars, puisque un peso valait un dollar, ne vont pas payer comme si c'était toujours en dollars, c'est-à-dire quatre fois plus. Mais il va y avoir un taux de convertibilité différent, de conversion, pardon, je m'excuse, entre le dollar et le peso, qui feront qu'ils paieront que 50% plus cher que le cours du peso. C'est-à-dire, en fait, beaucoup moins que s'ils... Et c'est ça, d'ailleurs, qui explique que les entreprises multinationales françaises, furieuses, plusieurs d'entre elles ont quitté le pays.
Mais les programmes sociaux, comment les finance-t-on ? Parce qu'il y a aussi des politiques d'aide sociale.
Les programmes sociaux ont commencé très tôt. Ils se sont amplifiés avec Christina Kirchner et ils représentent 3 à 4% aujourd'hui du PIB, ce qui est quand même relativement considérable. Ils sont financés pour beaucoup par les impôts pris sur le soja.
Sur l'exportation des produits agricoles,
oui, ce qu'on appelle là-bas les rétentions,
qui ont connu une flambée de leur prix. Christina Kirchner, qui est réélue 54% des suffrages au premier tour en octobre dernier.
Toute votre joie m'émeut. Vous n'imaginez pas à quel point je vous aime. Je veux remercier cette foule de jeunes Argentins qui se sont réappropriés à nouveau la place de mai. Et je veux vous dire, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, quand chacun de vous, en chacun de ces drapeaux, de ces six jeunes visages, je me revois il y a longtemps en ce même lieu.
Enfin, l'une des raisons du succès, c'est que le lien avec le Brésil est fort, qu'il y a ce vaste marché intérieur proche que l'Argentine qui se croyait en Europe.
Oui, c'est latino-américanisé.
Eh oui, c'est plus une île d'Europe.
Non, mais ce que je pourrais dire quand même une chose, c'est un succès parce que ça montre que les politiques d'austérité sont un échec. Et pendant des années, malgré toutes les limites de ce modèle, et elles sont grandes, ça a procuré de l'emploi, ça a augmenté les salaires, ça a permis de mieux vivre, malgré des inégalités très importantes et malgré une inflation qui tend à augmenter de manière dangereuse.
L'Argentine n'est plus d'Europe, elle est d'Amérique latine, elle est proche des pays émergents et il y a 10 ans, elle était...
À l'époque, en 2001, on se posait la question de savoir si elle ne s'africanisait pas.
La réalisation Jacques Sigal, la préparation Frédéric Martin, Franck Olivard, Meryl Moneghetti, à la technique Alexandre Chenet, Philippe Lucas et Sandrine Laurent.